En effet, ces questions que Anne Bessel a posées à un certain nombre d'autres voyageurs et voyageuses. Et l'auteur répond d'abord en introduction au livre, et puis ensuite elle donne la parole précisément à d'autres personnes. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit au départ, Anne Bessel ? Elle nous dit « Quoi que l'on puisse dire, quelque étonnant que cela puisse paraître, le nomadisme ne se résume pas à l'acte de nomadisation. » Ah oui, certains attributs nomades pourraient-ils se maintenir dans l'immobilité du sédentaire ? Cela m'a d'abord paru concevable et ma vie a changé, rien de moins. Nous pouvons voyager sans bouger, nous pouvons rapatrier jusque dans notre salon l'esprit du voyage. Est-ce vrai ? Est-ce un sacrilège ? Comment entreprendre un tel voyage, un voyage immobile, un voyage réel ? La question s'est posée à moi en ces termes et m'a invitée à aller la poser à d'autres. En guide d'initiation, un voyage géographique fixe. Sous la lanterne d'un phare battu par la tempête, à l'ombre desséchée du dernier cocotier d'un atoll abandonné, à la fenêtre embuée d'une cabane enneigée, qu'importe le lieu, pourvu que nos instincts, sédentaires ou nomades, s'y rencontrent et fassent connaissance. On est là et on voyage. Plus ardu et néanmoins accessible, chaque jour, par nos lectures, nos méditations, nos repas, nos créations, nos jardins, nos ivresses, nos luxures, nos chants, nos danses, nos découvertes, nos marches, nos tricots, nos expositions, nous pouvons voyager en imagination. Et enfin, le niveau suprême, le Graal que nous cherchons tous à atteindre, tâcher d'entretenir l'état profond du voyageur, cet état de confiance au monde, d'abandon au destin, de présence à soi, de disponibilité aux autres, de curiosité, d'émerveillement, d'audace. Oui, c'est bien ça, le voyage, donc immobile ou nomade, c'est l'ouverture au monde, la confiance au monde, la disponibilité aux autres. Alors, allons voir un petit peu ce qu'en disent en effet d'autres voyageurs. Et d'abord, quelques citations. Thomas Bernhard, qui n'était pourtant pas connu pour être un voyageur, mais plutôt un écrivain, il a dit « Le beau, c'est l'imprévu ». Alors oui, l'imprévu du voyage, c'est ce que nous allons chercher. Et ensuite, Naples, ce grand écrivain de langue anglaise aussi, a écrit « Indépendamment du but initial, nous aboutissons toujours à quelque autre point d'arrivée imprévu. » Donc le beau, c'est l'imprévu. Ben, le beau, c'est l'imprévu. Allons le vérifier avec Gilles Lapouge. Et Gilles Lapouge, c'est Sonia qui va nous lire sa petite participation.
Il existe, c'est vrai, une foule de choses que je n'ose pas essayer dans ma vie quotidienne, mais que je m'enhardis facilement à faire en voyage. C'est que, là-bas, l'urgence nous pousse à nous dépasser. Mais il s'agit de plus que cela, au fond. En vérité, le voyage nous met dans un état mental nouveau. Il nous offre l'audace et nous fait retrouver le goût de l'émerveillement qui avait déserté nos quotidiens devenus banals. J'aime l'inattendu des rencontres, échanger avec des personnes à qui, ordinairement, les conventions sociales me dissuadent de m'adresser. Je me souviens d'un voyage en Afrique, en 1952. J'arrivais à Dakar et repartais ensuite pour Léopoldville, une grande ville de négoce, magnifique à l'époque, emplie de palaces. Il me fallait trouver un hôtel, mais tous étaient complets. Dans l'un d'entre eux, un peu cher pour moi, le concierge m'a proposé de partager une chambre avec un Belge, car il n'y avait plus d'autres chambres de libre. Nous avons demandé son accord à ce Belge, un homme très intelligent, drôle et cultivé. Il a accepté. La nuit venue, une fois dans nos lits, nous avons discuté un peu. Il faisait nuit noire, nous avions éteint les feux. Soudain, une voix qui n'était pas la sienne s'est élevée et a posé une question. J'ai répondu. La voix a posé une autre question et ce jeu a duré longtemps. J'étais à la fois terrorisée et dévorée par la curiosité. Qui étaient ces invités de la nuit ? Le lendemain matin, dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai immédiatement cherché mes interlocuteurs nocturnes, mais il n'y avait personne dans la chambre à part mon Belge. Nous sommes descendus prendre le petit déjeuner. À table, Alors que je pensais attraper mon couteau, je me suis retrouvée avec une fourchette dans la main. La salière qui était sous mes yeux s'est brusquement volatilisée quand j'ai cherché à la saisir, et ma tasse, posée devant moi quelques instants plus tôt, fut tout à coup introuvable. J'ai vu mon compagnon de chambre, assis face à moi, sourire. Il m'a avoué alors qu'il était prestidigitateur, envoyé par le roi des Belges, qui s'était inspiré du stratagème mis en place par les Français un siècle plus tôt en Algérie. Un général français avait fait appel à Robert Houdin, un très célèbre illusionniste, pour rencontrer les tribus arabes en révolte et leur faire d'impressionnants tours censés attester de l'immense puissance du dieu des chrétiens. Dans le Congo, en proie à des soulèvements indépendantistes, mon voisin de chambre avait la même mission. Il était également ventriloque, d'où les voix nocturnes qui avaient mouvementé ma nuit. J'affectionne ce type de rencontre totalement improbable. Elles permettent non pas de changer de destin, mais de s'aventurer dans un autre destin de temps en temps. Devenir un grand négociant de la Hanse au XVe siècle, une pute de Macao, un prêtre, un saint, le temps de quelques heures. Vous précisez bien le temps de quelques heures. Oui, je puise beaucoup d'audace dans l'idée d'être un autre, par intermède. J'aime papillonner à travers différents destins et revenir ensuite à mon existence. Je ne pourrais pas être un de ces voyageurs absolutistes qui adoptent un nouveau destin, comme j'en ai vu chez les Indiens d'Amazonie notamment. C'est la tension extrêmement violente entre deux systèmes, deux conceptions du monde qui m'intéresse. Nicolas Bouvier fut l'un des voyageurs les plus remarquables du siècle dernier. Sa femme me racontait que, lorsqu'il était obligé de rester chez lui à Genève, pendant un certain temps, il allait à la gare voir partir les trains. Il avait en lui cet appel du départ, mais pour autant ne souhaitait absolument pas devenir persan, afghan ou japonais. « Ce qui me plaît, me disait-il, est d'être un occidental qui devient un oriental, puis un oriental qui redevient un occidental. »
Oui, il y a un petit extrait là pour terminer, je crois, sur la page 25.
Pour revenir au voyage, je suis allée en Islande parce que quelque chose m'en avait parlé. M'en avait parlé. Pourtant, j'y ai vu quelque chose de tout à fait différent du récit que cette personne m'en avait fait. Voyager permet de changer son regard à la manière des clichés de photographie que l'on plonge dans un bain révélateur et qui laisse apparaître une image différente de celle que l'on imaginait.
Donc, pour Gilles Lapouge, voyager, c'est en effet le plaisir des rencontres fortuites, comme il vient de nous les décrire. C'est aussi le plaisir de devenir autre, le plaisir de découvrir autre chose que ce qu'on attendait. Donc, découvrir, rencontrer, c'est bien sûr le but du voyage. Et c'est aussi ce que va nous dire Isabelle Autissier. Alors, Isabelle Autissier, c'est pas la peine que je vous la présente. C'est une navigatrice de haute mer, une navigatrice, je crois qu'on dit, est-ce qu'on dit de course en mer ? Oui. Donc, une grande navigatrice, en tout cas, et aussi une grande voyageuse. Donc, elle parle du voyage. Pour moi, voyager suppose un éloignement, une durée longue et un minimum d'inattendu. Si je me rends toutes les semaines à Paris, je ne qualifierais pas cela de voyage. Je prends le train le matin à 7h30, j'arrive à 9h, je fais ce que j'ai à faire, je repars à 18h et à 22h, je suis de retour à la maison. Certes, j'ai voyagé puisque j'ai parcouru 1000 km, mais cela reste une forme de routine. Je suis partie mener des activités qui m'intéressent, mais ne sont pas exceptionnelles. Aller vers des réalités que je ne fréquente pas quotidiennement, voilà ce dont je me nourris à travers le voyage. Certes, les personnes que je côtoie chaque jour m'enrichissent également, mais je les connais, je sais ce qu'elles peuvent ou non m'apporter, elles me réservent moins de surprises. Et donc, le voyage n'est pas synonyme de déplacement lointain, mais il est synonyme de surprise ou de nouveauté. Je peux me rendre quelque part en France, non loin de chez moi, et y découvrir une réalité très différente de la mienne. En ce sens, je peux considérer qu'il s'agit d'un voyage, en ce qu'il me confronte à quelque chose qui se distingue de mon quotidien ou de ma routine. C'est parce que j'ai une capacité d'émerveillement, une capacité qui n'a rien de naturel, elle est tout à fait culturelle, que je pars en mer et m'exalte pour ce que j'y rencontre. Pour autant, je m'émerveille tous les matins dans mon jardin et je m'émerveille encore en voyant la pleine lune. Cette façon de voir la vie crée cette capacité d'émerveillement et fait naître en moi l'envie de découvrir des territoires particuliers. Si l'on peut s'émerveiller devant un brin d'herbe, on le pourra d'autant plus en regardant le vol d'un albatros. Mais mon émerveillement reste le même, que je sois ici ou là-bas. Longtemps, mon temps a été occupé à 500% par mes courses et mes bateaux. Je travaillais à ce moment-là 7 jours sur 7, 12 à 15 heures par jour. Lorsque j'ai arrêté la course au large, la place s'est libérée pour autre chose et j'ai décidé de m'engager dans les combats environnementaux qui sont les combats du siècle. Sur le plan de l'emploi du temps, cela a plutôt constitué un remplacement. Sur le plan des idées, par contre, il y a continuité. Les questions environnementales, je les porte en moi depuis longtemps. Je m'y intéresse depuis 40 ou 50 ans. Même si je n'ai pas toujours été active, aussi active que je le suis aujourd'hui, elles ne m'ont jamais quittée. Si je partais seule sur les mers du Sud sans me préoccuper de rien, en naviguant sur n'importe quel bateau, j'irais évidemment droit à la catastrophe. C'est ce que je n'ai jamais fait. Cela aurait été une attitude à risque. Et je ne l'ai donc jamais adoptée. J'ai préparé mes navigations avec beaucoup d'attention. J'aimais faire des choses inhabituelles, mais non des choses risquées. Cela valait en mer comme à terre. Je ne vois pas pourquoi je risquerais ma vie. Je l'aime et j'y tiens. J'ai envie de poursuivre l'aventure encore un petit moment et je n'ai donc aucune raison de me mettre en danger pour le seul plaisir de frôler la mort. Comme tout animal humain, je n'aime ni risquer ma vie, ni me retrouver dans des situations dangereuses. J'ai toujours tout mis en œuvre pour minimiser les risques avant le départ en mer. J'ai inventé des systèmes, je me suis formée, je me suis adaptée éventuellement à mes parcours. Les conditions de la mer n'étaient pas toujours favorables, c'était donc à moi d'anticiper les situations. Il m'est arrivé, par exemple, lors d'une course au large, d'apprendre qu'un autre marin avait disparu, car son bateau s'était retourné, il était resté à l'envers et il était resté coincé. Personne à l'époque n'avait envisagé cette possibilité, les architectes nautiques pas plus que les coureurs. On pensait qu'un bateau à l'envers revenait forcément à l'endroit, puisque la quille, lourde, était conçue pour ça. Mais ce n'était pas vrai. Pour la course suivante, j'ai fait modifier mon bateau afin que, si cela m'arrivait, je sois capable de déclencher ma balise de détresse, de voir ce qui se passait dehors, de rentrer et sortir du bateau, de monter sur mon radeau de survie, toute chose qui m'aurait été impossible si je ne les avais pas envisagées avant. Et bien m'en a pris, car cela m'est aussi arrivé. J'ai alors mis en œuvre ce que j'avais inventé et cela m'a permis d'être sauvée. Donc voyager, oui, voyager comme Isabelle Autissier, mais en se préparant, c'est-à-dire en cherchant finalement dans le voyage des nouvelles découvertes, bien sûr, mais en cherchant aussi à maîtriser ce que le voyage apporte. C'est un petit peu ce que dit Sylvain Tesson. Sylvain Tesson, vous le savez, c'est un de ces grands voyageurs, justement, qui a beaucoup fait parler de lui parce que, précisément, il a rendu compte de ses voyages, il a écrit sur ses voyages. Alors, on ne partage pas toujours toutes ses idées, mais on peut quand même l'écouter parler du voyage puisque c'est en quelque sorte un diplômé du voyage. C'est Sonia qui va nous lire les remarques de Sylvain Tesson.
Pour moi, voyager suppose un éloignement, une durée longue et un minimum d'inattendu. Si je me rends toutes les semaines à Paris, je ne qualifierais pas cela de voyage. Je prends le train le matin à 7h30.
Ah non,
ça a déjà été dit.
Alors, je me suis trompée de page. Où il est, Sylvain Tesson? Je croyais qu'il était page 46, mais non. Alors, allons chercher Sylvain Tesson. Sylvain Tesson, il est page 28. C'est moi qui fais des bêtises, hein. Donc, on va rendre la parole à Sylvain Tesson. Et justement, il va nous dire que finalement, il cherche la nouveauté. Donc, ça tombe bien.
En voyage, l'être est confronté au jaillissement perpétuel d'imprévisibles nouveautés, pour emprunter l'expression bergsonienne qui définit le principe de la durée. L'errant ne sait pas ce que réservera le détour du chemin, le pli de la colline, la prochaine rencontre et la halte suivante. Le voyageur connaît aussi un renouvellement permanent de sa situation. Il navigue en un terrain mouvant. En route, il se trouve aux antipodes de l'existence sédentaire, réglée sur le papier à musique de l'habitude. Son corps, son esprit doivent se tenir aux aguets, prêts à réagir, capables de sauter d'une situation à l'autre avec l'énergie du rupicole. Le voyageur n'a pas peur de l'inconnu, il s'y précipite avec confiance et impatience. En outre, le mouvement, la pratique de la route, invite l'être à ne jamais s'arc-bouter sur le moment passé ni à se projeter dans le moment à venir, mais plutôt à célébrer avec bonheur la grande fête de l'instant. Le voyageur ressent la nécessité d'adhérer à la doctrine du hic et nunc. Son état de précarité physique, morale, sociale, ne l'incite pas à parier sur les lendemains. Sur la corde raide, le danseur ne pense à rien d'autre qu'au pas qu'il est en train de faire. La finitude de l'instant présent lui suffit à faire l'expérience de l'infini. C'est le principe des sagesses asiatiques. L'attention portée au moment présent est une vertu hautement énergétique. Quels sont les plus grands ennemis de l'énergie? La nostalgie, l'attente, la souffrance? Et ses plus fidèles collaborateurs? L'espérance, l'émerveillement, la curiosité, l'attention? La réponse est dans l'énumération de votre question. Le voyageur maintient son âme en haleine, selon la recommandation de Montaigne. Découvrir de nouveaux horizons incite à les regarder mieux, à les considérer avec plus de densité. Pour occuper les heures de solitude dans des steppes désolées, rien ne vaut l'éveil total des sens. L'attention au moindre bruissement, à la course d'un insecte, à la caresse d'une corolle. L'émerveillement perpétuel de l'œil, ce trou de serrure de l'âme, vivifie l'existence. L'éblouissement, pratiqué comme un exercice spirituel, est un antidote à la morosité, ce poison qui décharge la moelle. Un monde réenchanté par un regard éperdu et un monde fouetté par les vents de l'énergie. Mais l'homme qui se barricade derrière la haie de l'habitude, ce que Peggy désignait comme le racornissement de l'âme, qui s'englue dans le confort d'une vie sans risque, court celui d'être mort avant de s'en apercevoir. Pour prolonger cette notion de l'émerveillement, il faut aborder un point délicat. Le marcheur, le cavalier, le lent arpenteur de piste fait parfois une étrange expérience intérieure. À la faveur d'une longue étape dans le silence, il sent naître en lui le sentiment d'appartenir à la grande théorie du vivant. C'est le syndrome de Saint François d'Assise, l'impression de rejoindre une fraternité, celle des êtres animés. Soudain, sa propre existence lui apparaît reliée à celle des graminées qu'il foule, des réduves qui fuient sous sa semelle, des grues à col noir qui tirent dans le ciel des plans de vol parfaits, ou des renards qui courent vers d'hypothétiques festins. En somme, il cesse de contempler le tableau dans lequel il se meut comme un visiteur de musée devant la toile, mais éprouve la sensation de participer à cette mise en scène, à cette mise en vie. Et il saisit que toute manifestation du vivant provient de la même source d'énergie solaire, de cette usine occupée à transformer depuis 5 milliards d'années 4 atomes d'hydrogène en 1 atome d'hélium, et que c'est l'énergie photonique qui pulse dans la sève des plantes, dans le sang des hommes et même dans l'épaisseur de la lumière. Cette prise de conscience est profondément énergisante pour l'esprit. Tout marcheur sait qu'au bout de l'effort, il y a l'accès à un état de meilleure réception et perception du monde environnant. L'esprit s'aiguise sur la meule du corps en marche. Soudain, des pensées jaillissent qui ne seraient pas venues à la table de travail. L'organisme est en alambic. Lorsque se distillent les scories du corps, les vapeurs montent à l'esprit. Peut-être y a-t-il, dans la circulation du sang, quelque chose qui fouette l'esprit, l'air, le stimule. Pourquoi faisons-nous les 100 pas quand il nous manque un mot? Comme le dit Nietzsche dans Ecce Homo, le rythme des échanges physiologiques est en rapport direct avec l'agilité ou l'engourdissement des organes de l'esprit. Je suis partisan de la lenteur de déplacement. Mais par ailleurs, j'aime vivre vite, engranger, apprendre, faire lire, voir, rencontrer le plus de gens et le plus de choses possibles. Je rafle les expériences. Je suis un homme pressé qui, parfois, va à pied. Quant à la question de se convertir à la sagesse, c'est-à-dire un jour de se sentir capable de désirer ce que l'on possède déjà, selon la définition de saint Augustin, j'en suis loin. Je n'ai pas encore trouvé l'arbre sous lequel m'asseoir. Pour l'instant, je ne pense qu'à courir le monde et à grimper aux arbres. Des êtres épris de connaissances sont capables de ne jamais sortir de leur cabinet d'études et de dévorer des livres jusqu'à tuer leurs yeux. Ils ont conscience du monde extérieur, ils ont des pensées d'ordre universel sans jamais quitter la pénombre de leur bibliothèque. Ils s'enferment sous des nefs de livres comme Pélio dans la grotte aux manuscrits de Dunhuang. Une autre voie offre de s'échapper par l'imagination. L'effroyable Alper Speer, condamné à 20 ans de prison dans la forteresse de Spandau, a marché en rond dans sa cellule tous les jours pendant 2 décennies, en reportant scrupuleusement sur la carte les kilomètres effectués. Il a couvert la distance qui séparait sa cellule de ses gonds en imaginant traverser les régions dont il lisait les descriptions dans des livres de voyage. Et la dernière voie pour tromper le vide carcéral est celle de la création. Parfois, l'isolement inspire, l'incarcération élève. Pour s'en convaincre, les vers d'André Chénier, le roman de Fernand Pouillon, les textes de Genet, les lignes ultimes de Marie-Antoinette. Et je terminerai cette réflexion sur l'énergie sédentaire et vagabonde en 10 ans, après Jim Harrison, qu'on accède le plus sûrement à une perspective absolue du monde lorsqu'on est assis dans sa baignoire.
Alors, être assis dans sa baignoire ou y être allongé comme Archimède, je ne sais pas. On va s'aérer, justement, nous aussi. On va voyager, mais par la musique. Vous connaissez sûrement cette chanson de Desireless, « Voyage, voyage ». Eh bien, nous vous la proposons pour voyager un petit peu pendant 4 minutes et avant de retrouver d'autres voyageuses et voyageurs. Merci, Tatiana. Bah alors, nous allons continuer à sa place. Nous allons reprendre avec Paolo Rumiz. Paolo Rumiz, on pourrait presque dire que c'est un autre genre de Eri De Luca. Vous vous souvenez de Eri De Luca, ce merveilleux auteur italien qui, en dehors d'être un révolutionnaire, est aussi un alpiniste. Alors, Eri De Luca, il escalade et Paolo Rumiz, il pédale. Enfin, disons qu'il voyage à vélo. Et même quand il n'est pas à vélo, il voyage le long des frontières européennes ou en traversant les frontières européennes. Il s'interroge en effet sur ce qui fait cette construction de l'Europe, ce qui fait que nous avons des cousins un peu partout à côté de chez nous, même si quelquefois les cousins s'entretuent et les cousins ont bien du mal à cohabiter. Enfin, pour ce qui nous concerne là, pour l'instant, donc, Paolo Rumiz, il va nous parler d'une expérience un peu différente. Là, il n'était pas parti sur son vélo, il était parti dans un phare. Donc, écoutons-le parler de ce voyage un peu différent, de ce voyage qu'il entreprend au printemps de l'année 2014. Au printemps de l'année 2014, je suis partie vivre 3 semaines dans un phare isolé sur un rocher au milieu de la Méditerranée. Tous les voyages sont nécessaires pour regarder en nous-mêmes à travers les autres, mais j'ose dire que ceux qui prennent une forme solitaire et immobile sont les plus passionnants, les plus parfaits et les plus difficiles. On y est seul face à soi-même, en proie aux visions, sans échappatoire, tenté par le laisser-aller. Ce voyage immobile m'a permis de scruter les profondeurs avec beaucoup plus de temps qu'à l'ordinaire. Si j'ai découvert en moi des espaces inexplorés, j'ai surtout renoncé à analyser la réalité pour chercher une compréhension différente, plus émotionnelle. Je voulais sentir avant de comprendre. C'est ce que j'appelle la vision pélagique du monde, bien qu'elle ne soit pas nécessairement liée à la mer ou au grand fond marin, puisqu'on peut la ressentir pleinement au sommet d'une montagne, le long des routes et aussi à sa table de travail. Le processus est le même en tout lieu, il est simple. Nous décidons qu'un lieu constitue notre centre et une chose peu ordinaire se produit alors, nous nous découvrons instinctivement au centre du monde. Naturellement, le phare amplifie cette sensation de centralité. Ce fut la plus belle découverte que ce voyage. Je suis partie pour me reposer, m'éloigner du monde, et c'est précisément le contraire qui est advenu. Je me suis retrouvée en son centre, exposée à 1 million de sollicitations intérieures et extérieures. Vivre un voyage géographique immobile, c'est aussi réconcilier les deux pulsions, nomades et sédentaires, qui habitent chaque homme. Il y a 1 million de raisons rationnelles pour expliquer le désir de voyage, l'impatience de partir. Mais la vraie raison est irrationnelle et pulsionnelle. Elle habite nos jambes et nos pieds. Nous avons besoin de bouger lorsque le printemps arrive et que change le parfum du bois. Nous sommes fébriles et indociles à la fin de l'été, quand les fruits mûrissent, que la lumière s'équilibre entre le jour et la nuit. Il y a cette part animale en nous qui oblige à mettre en discussion le sédentaire que nous sommes devenus. Quelque chose nous fait partir et il nous faut obéir. Une fois la pulsion nomade apaisée, vient le temps de la pulsion sédentaire. Le désir d'être chez soi augmente au fur et à mesure des voyages. Plus il s'expose au monde, plus l'homme a besoin d'un refuge. Pour reposer son corps et son esprit, se consoler de l'uniformisation du monde, mieux connaître son lieu de naissance, il lui faut un ancrage. C'est particulièrement vrai au moment de la vieillesse. Après avoir parcouru le monde, vient alors le retour à Ithaque, le moment de partager l'expérience rassemblée. Notre capacité à raconter des histoires se développe naturellement quand nous entrons dans l'âge d'être grand-père. Il faut l'entraîner, jouer avec sa voix, ses gestes, ses yeux. S'entraîner aux rencontres vraies chaque jour. Alors là, j'ouvre une parenthèse. Bah oui, raconter des histoires à ses petits-enfants, ça doit être en effet une façon de voyager. Je n'y avais pas pensé en tant que telle, mais je vais creuser la suggestion. Finissons donc juste avec Paolo Rumiz. En réalité, nous sommes toujours en voyage dès que l'on sort de chez soi, parce que l'on fait des rencontres ou parce qu'on marche. Plus jeune, j'avais très souvent l'impression de perdre du temps lors d'une rencontre fortuite que je ne trouvais pas particulièrement épanouissante. Aujourd'hui, je pense que j'en gagne toujours. Je prends le temps de m'arrêter et d'échanger. Même si cela me met en retard, j'aime me sentir disponible. Un animal habite en nous qui nous aide à ne pas nous éparpiller, à distinguer les bonnes rencontres de celles qui sont inutiles. Oui, c'est vrai. Défendons-nous d'un excès de contact et redonnons la part belle aux rencontres. Mais ces rencontres, profitons-en et voyons en effet ce que la pulsion nomade nous apporte pour ces rencontres. Dans le fond, les voyages passent aussi par l'estomac. La connaissance du monde, elle est intellectuelle, oui, mais elle est aussi matérielle, concrète et pratique. Ma fenêtre incarne l'esprit du voyage, mais ma table aussi. J'alterne mes casseroles et mon écriture, un petit dobadisme qui se satisfait sur la table ou sur le feu et qui permet de libérer des pensées plus justes, plus inspirées, moins essoufflées. Il suffit de surveiller les légumes auxquels on a ajouté des épices, de surveiller les légumes sur le feu pour que finalement les récits apparaissent. Et à ma table, j'ai la vision d'un horizon méditerranéen ou asiatique, la vision d'un horizon caribéen ou américain. Ben oui, c'est ma cuisine, c'est mon feu et celui de personne d'autre, mais j'ai déposé sur ma table mes désirs de voyage, et ces voyages, c'est une pensée parfaite. Voyager, c'est une pensée parfaite. On va voir quelque chose d'un petit peu complémentaire avec Cédric Gras. Alors, figurez-vous que là, j'ai manqué à tous mes devoirs. Je n'ai pas cherché qui est Cédric Gras. Mais enfin, c'est sûr, et son extrait va nous le dire, c'est un voyageur. Écoutons donc Sonia nous parler des voyages de Cédric Gras.
Je suis partie pour Vladivostok, qui m'évoquait puissamment les latitudes polaires, la neige et les tempêtes. Sur place, j'ai rencontré une ville située à la latitude de Nice, ouverte sur le Japon voisin, très proche de la Corée du Nord et flanquée d'un port de commerce négociant avec les pays du Pacifique. D'abord surpris, déçu, j'ai rapidement aimé découvrir cette ville nouvelle, brutalement débarrassée de mes idées reçues. À la réflexion, ce n'était même plus une désillusion. Je m'étais simplement trompé de sujet. Ce lieu où j'imaginais mille choses, je l'aimais pour mille autres. Ça peut arriver aussi avec des femmes. C'est le problème du premier contact. En voyage comme dans les relations, il est toujours assez trompeur. Mon premier livre, Vladivostok, neige et mousson, a tenté de raconter cet épisode, de parler de Vladivostok telle qu'elle est, en l'opposant à la ville fantasmée en Occident, et même jusqu'en Russie. C'est amusant comme certaines destinations ont une représentation qui leur colle à la peau et dont elles ne parviennent que peu à se débarrasser, alors même que les films et les médias tentent pourtant aujourd'hui de rectifier la réalité. C'est un sujet très amusant, cette désillusion, ou plutôt ces illusions que l'on a du voyage. Le terme de Vladivostok fait naître en nous quantité d'images. Mais la ville se situe dans un ensemble bien plus vaste, l'extrême-orient russe, qui véhicule beaucoup moins de mirages. Lorsque la région est inconnue, le risque de déception est moindre, bien sûr. L'extrême-orient russe ne m'évoquait rien, à l'exception de vagues idées complètement démentes sur le fleuve Amour. Je me souviens très bien d'un livre de contes de Dimitri Nagiskine que ma mère me lisait quand j'étais enfant. Il était question de princesses, de tigres, de peuplades autochtones, tougnous et de chasseurs. Quand je suis arrivée sur les rives du fleuve Amour, qui ne sont rien d'autre qu'une vaste et morne plaine, je fus bien sûr quelque peu désillusionnée, un bref instant. L'extrême-orient russe n'est certes pas aussi spectaculaire que le toponyme paraît le promettre, mais en réalité, il ne m'a pas déçu, car j'ai découvert une profondeur historique, une rudesse des hommes et des géographies immenses. Hormis le fleuve Amour, je n'avais que peu d'attentes. Ma seule illusion, la seule promesse qui me paraissait réaliste, était la saveur de l'inconnu, forcément positive. L'inconnu est toujours très prometteur. Toujours. Qu'importe ce qu'offre le chemin. Qu'importe que l'horizon du soir soit follement beau ou vaguement fade, cela n'a aucune importance puisqu'on est en chemin, disposé à tout recevoir. Le simple fait d'être parvenu au point souhaité le soir est une satisfaction. C'est l'idée même de l'exploration, ce goût pour les paysages dépeuplés. Je suis fasciné par l'isolement. Non pas celui induit par les nouvelles technologies, mais l'isolement géographique. Le paysage emporte assez peu, j'aime avant tout retrouver cette atmosphère de bout du monde, de Finistère et de confins, me sentir entouré par l'immensité, noyé dans l'espace. Ces lieux donnent une intensité aux liens humains et au caractère des hommes. Je peine à considérer le voyage comme une enfilade de perles, une course de ville en ville. Il s'agit bien davantage pour moi d'une traversée des grands espaces. Chaque voyage est l'occasion de parcourir un océan terrestre, loin des localités urbaines d'un réseau drainé par les moyens de transport. J'aime le grand ciel et la grande terre. Je cherche à entrer en état de voyage au quotidien, en état de confiance au monde, de curiosité, d'heureuse désillusion, d'éblouissement, de présence. Lorsque vous voyagez, vous habituez votre regard à observer. Le voyage est une gourmandise du regard. Certains en ont moins la nécessité que d'autres. Moi, j'ai besoin de visages, d'horizons et de perspectives constamment renouvelées. Si voyage immobile il faudrait que cela soit dans un endroit sublime, un parc au cœur d'une vallée des merveilles, un refuge magnifique au-dessus de la mer. Mais encore une fois, la sédentarité n'a rien à voir avec le voyage. L'ensemble constitue un cocktail détonnant, et malgré tout, il y a un bonheur fou inexplicable là-dedans. C'est un état dans lequel on entre au bout de quelques jours et qui nous enivre. Le bien-être ressenti tient sans doute à l'errance, au changement de lieu perpétuel, à un effort de rencontre, un hasard, une fragilité commandée par l'imprévu, et puis bien sûr, ces décors sans cesse renouvelés, dénués de monuments touristiques spectaculaires. La terre est magnifique et abrite en tout lieu des décors splendides. Moi, j'aime le voyage pour le voyage.
Oui, c'est assez amusant ce que disent ou ce qu'écrivent tous ces gens, tous ces voyageurs ou voyageuses, on pourrait dire diplômés finalement. Ils disent tous la même chose ou bien ils disent tous les mêmes contradictions. C'est-à-dire que finalement, on aime les paysages merveilleux, splendides, dépeuplés, ou l'on aime les visages et les rencontres. Et finalement, on aime les deux. Enfin, ils aiment les deux et nous aimons les deux. Alors, on va s'intéresser à quelque chose de complètement différent avec Christian Bobin. Vous savez, Christian Bobin, il est spécialiste, vous avez sûrement lu des textes de lui déjà, il est spécialiste des petits textes courts qui nous révèlent les, comment pourrait-on dire, les surprises du quotidien. Donc, évidemment, on va faire une petite pause, Christian Bobin, qui va vraiment être une pause dans le voyage, puisque ce que Christian Bobin répond, lui, ce n'est pas le voyage, mais c'est au contraire l'immobilité recherchée et la découverte d'un... C'est même pas un lieu, la découverte d'un lieu si précis que je ne sais pas comment le nommer. Mais en tout cas, il s'agit d'une fleur de pissenlit. Alors, je vais vous lire donc le voyage vers la fleur de pissenlit. Je n'ai hélas rien d'autre à vous offrir que la vision d'un enfant de 4 ans accroupi devant l'explosion lente et silencieuse d'un pissenlit. Je n'ai pas fait un seul pas depuis l'enfance. Les féeries m'ont empêché d'aller plus loin. Ma rue natale s'appelait rue du 4 septembre. Je suis restée là, à cette enseigne. Chaque jour contient tous les jours. Les milliards de papillons de la grande histoire venaient battre des ailes dans cette rue banale, comme ils le font partout. Je suppose qu'un nomade de Sibérie ou qu'un indien d'Amazonie, tout à leur vie ordinaire, aussi bien que l'enfant au pissenlit quand ils font taire leurs soucis, entendent cogner à leurs tempes les tambours des empires, le cri des rois sous la hache et les chansons des lavandières. Pour peu que nous soyons attentifs à la cellule d'air dans laquelle nous respirons, nous sommes informés du monde entier, de ses origines à sa fin. Les voyageurs, qu'admirent-ils, sinon la vie très patiente et très ordinaire de ceux qu'ils frôlent? Ma rue était en pente. À gauche, elle montait vers la nature, à droite, elle s'éteignait dans l'usine. Je ne m'aventurais même pas à ses extrémités. 20 mètres m'épuisaient et me comblaient. Une main pousse dans sa vie, une main pousse chacun dans sa vie. Nous ne sommes pas rien, nous sommes nos choix. Moi, ma main, enfin la main qui me conduisait, s'est plaquée à mes épaules et m'a tenue longtemps, très longtemps. Je connais très bien l'alphabet des nuages, l'écriture des fissures sur les tablettes d'un trottoir. Je n'aime pas plus l'éloge des racines que celui des voyages. C'est ainsi. Dans les yeux des gitans et des inuits, je vois mes yeux et toutes les splendeurs brutales de ma vie. C'est inexplicable. Depuis que, à 4 ans, j'ai contemplé l'éclosion d'un pissenlit. Alors, j'espère que mon petit mot vous fera sourire. C'est une façon de vous dire comment vous ouvrir au monde et j'en suis très satisfait. Alors évidemment, c'était une boutade de Christian Bobin, mais on n'a même pas eu la description de l'éclosion du pissenlit. Moi, j'ai été un peu déçue. Je vous avouerai que je croyais que j'allais assister à l'éclosion de la fleur de pissenlit, mais non. On m'a simplement dit, enfin, il m'a simplement dit que, en effet, l'univers était dans sa cour ou dans son jardin. Et Bernard Hoffmann, dont on va maintenant vous lire la participation, ben c'est un petit peu la même chose. Il va nous parler de l'objectif photographique qu'est son regard et il va nous inviter à voyager géographiquement en restant chez lui. C'est Sonia qui va vous lire ça. Je vais lui demander de lire donc les participations de Bernard Herrmann, mais sans reprendre les questions intermédiaires. Merci.
J'ai tout d'abord...
Oui, excuse-moi, j'étais en train de faire... C'est Blaise Hoffmann. C'est Blaise Hoffmann.
Il a écrit Bernard Herrmann.
Ah bon, alors c'est pas lui. Je me suis encore plantée dans mes pages. Décidément, je ne suis pas douée. Hein. Aujourd'hui, j'ai des problèmes. Et alors, Blaise Hoffmann. Ben oui, bien sûr, nous allons retrouver Blaise Hoffmann. Alors là, je me mélangeais dans les patronymes. Voilà, ça y est.
La solitude est le sésame de tout voyage. Il faut faire sa connaissance, s'en accommoder, apprendre à l'aimer. Elle est stimulante. Elle tourne le volume de la vie. Elle accentue les passages à vide, mais aussi les pics de joie. Elle force la rencontre quand on est seul au bar, seul dans un bus. On s'aperçoit bientôt qu'elle libère du temps pour digérer, formuler, fixer le voyage, photographier, dessiner, écrire. Très vite, elle devient un outil de connaissance, un luxe aussi important que la lenteur. Cela dit, la solitude, comme toutes les drogues, a ses contre-indications, surtout lorsqu'elle se sédentarise. Il y a 2 ans, je me suis offert un rêve d'enfant. Une robinsonnade de 5 jours sur une île déserte, l'île de Motane, dans l'archipel des Marquises. Ce fut bon de me sentir capitaine d'un bateau immobile, unique ambassadeur du genre humain régnant sur mes sujets minéraux, végétaux et animaux. Je lisais sur mon paquet de tabac roulé l'avertissement « Fumez nuit à la santé de votre entourage » et je riais. Mais assez vite, le vent a tourné. Motane n'avait pas besoin de moi et si personne n'était venu me chercher, je serais mort en l'espace d'un mois. Motane n'était qu'un local d'expérimentation pour un laborantin qui ignorait ce qu'il cherchait. Ma posture était risible, même si personne n'était là pour juger ma vacuité. Il faut être 2 pour être ridicule. L'idée de l'île déserte était une mauvaise idée. Ce n'était pas de l'ennui qui me taraudait, mais l'absence de sens, l'absence d'échange. L'île déserte, c'est la pensée ralentie, le manque de stimulation, la chaleur, les mouches et la peur de ne pas avoir assez d'eau. La solitude est corrosive, elle agit lentement, sans relâche, elle déshumanise. Pense-t-on vraiment guérir les criminels en les isolant ? Me revenaient alors les paroles du vendredi de Tournier. Je sais maintenant que la terre sur laquelle mes 2 pieds appuient aurait besoin, pour ne pas vaciller, que d'autres que moi la foulent. Contre l'illusion d'optique, le mirage, l'hallucination, le rêve éveillé, le fantasme, le délire et le trouble de l'audition, le rempart le plus sûr, c'est notre frère, notre voisin, notre ami ou notre ennemi. Mais quelqu'un, grand Dieu, quelqu'un. Vous semblez habité par la confiance. Cette confiance ne vous abandonne-t-elle jamais en voyage ? C'est plus simple que cela. Un départ demande des sacrifices, administratifs, professionnels, sentimentaux. Mais à chaque fois, je fais le même bilan. Je rentre gagnant. Je n'ai encore jamais eu l'impression d'avoir raté un voyage. La réalité ne correspond jamais aux attentes. Il y a du vol et des arnaques, c'est la rançon du voyage. mais je rentre toujours plus vivant, endetté de la générosité des autres. Et c'est, dans la fluctuance de ce monde, un constat sable assez rassurant. Quelle est votre expérience de l'hospitalité ? Je répondrai de manière très présomptueuse en citant un paragraphe de mon premier livre, « Billet, elle est simple », le récit d'un voyage d'un an et demi en Asie et en Afrique. Lorsqu'au loin, un filet de fumée prend progressivement les traits d'une yourte, les canines intimidantes d'un molosse font que tu ramasses promptement une poignée de cailloux pour la lui lancer. Cependant, la plupart du temps, on ne refuse pas l'hospitalité aux voyageurs, comme on dit ici, et un peu partout, sauf chez toi, en Suisse. L'hospitalité des gens est inversement proportionnelle à l'hospitalité de leur environnement. Vous avez forgé une belle expression, l'exotisme du proche, qu'entendez-vous par là ? On prend le transsibérien, on traverse le Sahel, on attrape la malaria, on visite Bam ou Bamiyan, on se retire dans un monastère orthodoxe, on découvre le bouddhisme zen, on fait ramadan au Yémen. Et puis un jour, c'est le pays natal qui vous fait de l'œil. On voyage alors en Suisse, dans les Alpes vaudoises, à une heure de route d'un théâtre contemporain ou d'un bon pote avec qui refaire le monde. On passe en été en compagnie de 2 chiens et de 1000 moutons. On fréquente les vachers de la vallée, quelques randonneurs, on redécouvre les saisons, les orages, la canicule, la neige. Le citadin que je suis, confié aux mains calleuses des vachers, s'est senti aussi dépaysé qu'un backpacker occidental en vadrouille pour la première fois en Inde. J'étais plus à l'aise à Krasnoyarsk ou à Tamaracé que sur l'alpage en train d'aider une brebis à agneler, le bras introduit jusqu'au coude. Depuis quelques années, cet exotisme du proche est la contrée que j'ai le plus de plaisir à fouler. Peut-être par lassitude des récits d'aventures insensées, des quêtes narcissiques et des défis surmédiatisés. Je travaille en ce moment avec le peintre animalier genevois Pierre Baumgart. Il y a quelques semaines, il m'a simplement fait lever les yeux vers le ciel et découvrir, à 38 ans, que chaque année depuis que je suis née, passait au-dessus de ma tête des dizaines de cigognes noires en migration pour l'Afrique. Un spectacle de toute beauté. Comment cultiver la disponibilité au monde chaque jour ? Si vous avez la... je m'arrête là ?
Okay. Oui, on va juste s'arrêter, en effet, avec les cigognes noires qui passent au-dessus de la tête de Blaise Hoffmann, dont on aura bien compris qu'il est vaudois et qu'il a des amis genevois. Donc, il est suisse et dans sa Suisse natale, non seulement il voit passer les cigognes, mais il va voir et rendre visite longtemps aux brebis sur leurs alpages. Alors, finalement, c'est un petit peu ça. L'idée, c'est... le voyage proche vaut bien le voyage lointain. Je ne sais pas si vous serez d'accord. Moi, je ne suis pas forcément d'accord. Mais en effet, le voyage, puisque on l'a dit déjà tout à l'heure, c'est l'émerveillement. Eh bien, cet émerveillement, en effet, on peut le trouver près de chez soi. Et alors, cette fois, on va quand même aller retrouver, si je le retrouve effectivement, Bernard Herrmann. Parce que, alors il y avait Pierre Rabhi aussi qui voulait nous dire des choses. Bernard Herrmann, il va en effet nous dire des choses sur la proximité géographique avec la photographie. J'ai cessé de voyager géographiquement en restant chez moi ou en minimisant les occasions de sortir parce que la photographie s'est invitée photo après photo sans autre perspective que le plaisir de photographier un petit moment de vie par la fenêtre. Les photos en s'accumulant me donnèrent quand même un jour l'envie de faire un livre. Et faire un livre de photos, oui, c'est voyager, c'est constituer en fait un voyage immobile. Il faut d'abord lâcher prise, retrouver ce lâcher prise bouddhiste pour se détacher des sentiments de voyage et retrouver le sentiment peut-être, mais à travers la photo qu'on contemple. Pardon, je m'étrangle. Les petites échappées géographiques en Sibérie, au Yémen ou au Tibet valent par les souvenirs qu'on en a rapportés, bien sûr dans sa tête, mais aussi dans l'écran, enfin sur l'écran ou sur le papier. Les souvenirs photographiques, lorsqu'on veut les rassembler, lorsqu'on veut les juxtaposer, c'est cela qui constitue le souvenir de voyage. Le souvenir de voyage, il n'est pas forcément rédigé, il est aussi photographier. Cette photographie, c'est un genre de refuge cosmoplanétaire, un ermitage enchanté qui ressemble à un cabinet de curiosité éclectique Il est encombré d'objets, d'objets d'art, d'objets de paysage. Il est encombré, oui peut-être, d'un monde en chambre. Il est encombré d'un ailleurs multiple, donc des ailleurs que j'ai photographiés. Je témoigne ainsi de différents types de voyages. Je témoigne de mes impressions de voyage. Bernard l'ermite, oui, peut-être, mais aussi Alexandre le bienheureux et Bouddha, bien sûr. Bouddha, oui, c'est un maître du voyage immobile par la méditation, mais on peut aller le retrouver, on peut le retrouver, bien sûr, dans toutes les terres qu'il a fréquentées en Asie pour pratiquer aussi ce voyage immobile. Donc, le voyage de Bouddha, c'est, vous le savez, le détachement. Peut-être que ce détachement ou ce rattachement à des choses photographiées dans le passé, c'est ce qu'on peut effectivement trouver dans le voyage immobile. Ben oui, le voyage immobile, on est presque arrivé, nous, au bout de notre voyage. Et on va juste faire appel à Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, on pense qu'il est ancré les deux pieds dans son terroir, mais il va nous parler très rapidement de ses voyages pour nous dire aussi que quand on voyage, c'est aussi avec les autres. C'est merveilleux, mais finalement, on n'a pas toujours besoin de voyager. C'est Sonia qui va nous lire cette conclusion de Pierre Rabhi.
J'ai en effet effectué de nombreux voyages au Burkina Faso, au Sénégal, au sud de la Tunisie, en Palestine ou au Canada, pratiquement toujours à des fins de transmission de savoir ou de missions particulières concernant l'agriculture écologique. Des voyages de loisirs pour me dépayser, je n'en ai presque pas fait. Peut-être n'avez-vous pas eu encore l'occasion de venir chez nous, je vous y invite. Vous verrez alors que nous sommes dans un lieu parfaitement magique. Depuis chez moi, par-dessus un bois sublime, je contemple 17 clochers. Lorsque nous avons décidé de réaliser un retour à la Terre, ma compagne Michel et moi en 1961, une personne nous a parlé de l'Ardèche. Nous y avons été bien accueillis par un médecin qui est devenu un ami et nous avons décidé de nous y installer. Nous étions jeunes et sans le premier centime. Le Crédit Agricole n'acceptait de nous prêter de l'argent que si nous acquérions des compétences. Ainsi, j'ai été ouvrier agricole pendant 3 ans, j'ai passé un petit diplôme et grâce à cela, j'ai été en mesure de faire un emprunt. Mais quand la banque a constaté que le lieu que nous avions choisi pour nous installer n'était pas le lieu idéal, à son goût du moins, il a bien fallu que je dise qu'il n'y avait pas d'électricité, évidemment pas de téléphone, très peu d'eau et que le terrain était rocailleux, elle n'a plus voulu nous prêter de l'argent. Comment expliquer au préposé du Crédit Agricole que nous avions fait ce choix car le lieu était beau et que nous ne voulions pas renoncer à la beauté? Grâce à l'intervention d'un sénateur, nous avons finalement pu obtenir ce prêt et je puis vous assurer que nous ne le regrettons pas. Nous vivons dans la beauté en permanence. Nous ne nous sommes pas trompés. Vivre dans un lieu sublime, c'est être nourri intérieurement. L'âme, l'esprit, le cœur sont vivifiés par cette magnificence de la nature, et cela donne du courage pour survivre. Alors, le voyage ne me tente guère. En définitive, la sédentarité a pris une plus large place chez moi que le nomadisme. Je n'ai rien contre les gens qui voyagent, bien au contraire. Mais je me trouve, chez moi, en voyage permanent. J'observe les saisons, les changements continuent. Si je contemple le bois sous mes yeux, je le vois se colorer en automne, puis au printemps reverdir, et tout le paysage avec lui. La nature se réveille et exulte, les oiseaux se mettent à chanter. Cela représente un magnifique voyage immobile. Je n'ai pas besoin de voyager.
Je n'ai pas besoin de voyager. Moi, j'en suis pas tout à fait sûre. Mais il fallait bien prendre un parti. On a pris le parti de Pierre Rabhi à la fin, qui nous dit que le meilleur voyage, c'est le voyage immobile. À condition, quand même, ajoute-t-il, de voir devant lui une nature merveilleuse. Alors, la nature merveilleuse, où on l'a sous les yeux, où on va la chercher, et la rencontre avec les autres, dans tous les cas, même si on l'a autour de soi, on va aussi la chercher. Je vous laisse donc à ces réflexions sur le voyage nomade ou le voyage au coin de chez soi. En vous proposant bien sûr au coin de chez vous à Marseille des tas de surprises et de révélations et puis en vous retrouvant la semaine prochaine pour d'autres voyages. À bientôt. Ah oui, Marianne Makeba quand même pour nous faire voyager jusqu'à l'émission prochaine.
Here's a song that comes from Tanzania. Thank you. Malaika, nakupenda malaika, malaika, nakupenda.